Donc bonjour, aujourd'hui on va discuter, recevoir le groupe Moussuité et les Jovens. Donc je voulais qu'on commence par parler de banjo, donc de Claude McKay, parce qu'il me semblait que, enfin c'est vous qui l'indiquez, on l'entend aussi dans les deux albums, de parler de banjo, donc cet ouvrage qui a été écrit donc dans les années 30, en 28 il me semble, 1928, par Claude McKay. Et commencer peut-être par ce que vous me disiez, qu'est-ce que vous tirez vous du livre, qu'est-ce qui vous a dit ce livre ?
Principalement, ce regard extérieur de quelqu'un qui n'est pas, on va dire, dans le cadre français, sur Marseille, pour nous, c'est une espèce de regard libérateur. C'est-à-dire que, en fait, ce qui était drôle, c'est qu'on a rencontré quelqu'un qui allait totalement dans notre Marseille rêvé, quoi, dans ce qu'on était en train d'essayer de vouloir construire. Nous, il y avait d'un seul coup. C'est comme si on trouvait une espèce de grand-père là, qui nous aurait raconté la même, ce après on était en train de courir après un truc finalement. Et puis là, le type, il nous racontait que en 1929-28, il y avait des types qui couraient après le même truc. En fait, que le Marseille qui se représentait lui était finalement beaucoup plus proche de notre Marseille à nous, Marseillais, que tous les Marseilles que se représentent les Français en général. Mmh. Donc c'est, surtout ça, c'est intéressant, c'est-à-dire aussi pour nous de briser le truc et de dire putain, on est quand même intéressant. Ce mec, il arrive de Jamaïque, là, c'est quand même un grand écrivain et il s'intéresse à nous. Donc c'est qu'on est peut-être un peu moins con que ce qu'on dit d'habitude. Donc,
et ce truc-là de Marseille, ce Marseille dont vous parlez, c'est quoi précisément ? C'est un Marseille qu'on pourrait dire comment populaire, cosmopolite, c'est...
Cosmopolite, bien sûr, populaire. Un Marseille, on va dire. Un Marseille démocratique, moi je dirais, c'est-à-dire un Marseille qui garde encore les derniers vêtements de sa vieille république là, comme ça. Après, par rapport à donc nous on vient de Massilia son système, donc il y a aussi là un hasard un peu qui nous a je veux dire ce qui nous a c'était assez extraordinaire. On trouve d'un seul coup, nous qu'est-ce qu'on fait, on a un groupe qui est né au panier, c'est-à-dire près de ce qu'il appelle la fosse, lui, le haut de cette fosse, la partie qui a eu la chance de ne pas être détruite. Donc le groupe, il est né au panier, c'est un groupe de reggae, donc, qui s'inspire de la Jamaïque. Et là, d'un seul coup, on a un Jamaïcain qui arrive et qui nous raconte l'histoire d'une bande de mecs qui veulent monter un groupe de jazz dans le même quartier que nous. C'est un Jamaïcain, le type, il parle de Marcus Garvey, il y a tout ce délire sur même la défonce, le vin, quand ils vont aspirer le vin dans les barriques. Donc finalement, encore une fois, c'était... on s'est demandé pourquoi on ne l'avait pas rencontré plus tôt, ce type. Moi j'aurais gagné 10 ans si 10 ans avant, on m'avait dit, il y a un mec terrible qui s'appelle Claude McKay, il a écrit tout ce que vous racontez, là, il a écrit. Et je pense que c'est quand même révélateur que ça ne soit pas un Français qui l'ait fait. C'est...
Et ce côté, sur quoi tu revenais, démocratique, de la ville comme espace démocratique ou de la démocratie, en quoi ça vous parle et qu'est-ce que ça vous a donné envie de dire, si c'est ça que vous trouvez dans le roman de McKay?
Ça nous parle parce que c'est scène de rue, tout simplement. C'est-à-dire, c'est la ville où l'extérieur est un endroit de rencontre. Alors que maintenant, la ville, si tu sors dans la rue, les mecs, ils font que marcher ou que aller à la boulangerie ou que revenir du boulot. Ils sortent jamais dans la rue. Je vais parler avec machin, je sors dans la rue. Donc là, il y a l'image de cette ville où la vie sociale, si tu veux, elle se fait dehors. Que cette ville-là, elle n'existe plus.
Donc quelque part, ça veut dire que ce que vous avez tiré de ce roman, c'est quelque chose que vous trouvez encore très pertinent aujourd'hui ?
Oui, puisque nous, on a toujours dit, à travers Massilia, tout ça, que ce qui était intéressant pour que les gens se réintéressent à la politique, c'était de commencer par faire des trucs chez eux, c'est-à-dire de mettre le débat à nouveau dans la rue, faire des repas de quartier, organiser des lotos, des concours de boules, c'est-à-dire tous ces lieux extérieurs de rencontres. Et là, ça va totalement dans le même sens. Oui.
Et en sachant ce que vous avez fait autour de Massilia, alors pas seulement effectivement ce qui est du registre de l'artistique, mais ce que vous avez fait à partir de Massilia dans la ville et pour la ville, je dirais, vous trouvez des choses différentes à faire à partir de ce que vous faites dans les Jovens ?
Non, parce que on est des musiciens. On a le droit de parler. Là, j'ai le droit de débattre sur la démocratie dans ma ville, mais je suis pas un homme politique, je suis un musicien. Donc, esthétiquement, dans Mackay, dans Banjo, on trouve des choses qu'il n'y a pas dans Massilia Sound System, qui sont plutôt du registre de Moussuté et les Djouvé. L'époque, le jazz, le blues, les choses qui arrivent comme ça, qui ont des rapports avec Massilia, hein, mais qui ne sont pas des rapports directs, quoi. Je pense que dans Moussuté et Djouvé, déjà, nous, on vient d'une petite ville à côté de Marseille qui s'appelle La Ciotat, qui est une ville portuaire, exactement, qui est un petit Marseille, on va dire, hein, une espèce de quartier de Marseille qui aurait été détaché, donc à la fois portuaire, industriel. Et donc, on a ce côté de Banjo, il raconte Marseille, mais il pourrait raconter La Ciotat, donc il y a déjà ce truc-là. Et puis nous, je pense que on a toujours aimé avoir cette dimension un peu immédiate des choses, c'est-à-dire que qui soit pas du domaine du spectacle, qui soit un truc vraiment, tu peux descendre en bas de chez toi, tu prends la guitare, tu chantes, et tu sens ce truc-là dans Banjo, tu sens ce truc-là dans le personnage de Banjo, comment quand il est dans le bar, hop, il prend le banjo, ça, il commence à jouer, les gens ils se foutent le feu, et c'est qu'après qu'il dit ah ben on pourrait peut-être faire un bon truc avec ça, on pourrait peut-être gagner notre vie avec ça, mais il y a ce côté immédiat, il rencontre un type qu'il connaît pas, qui joue de la flûte, il écoute le type jouer, il dit, oh putain c'est super, allez hop, viens avec moi, on va faire un donc voilà, ça nous intéressait aussi, ça nous intriguait aussi parce que en même temps qu'on a découvert Banjo, on a découvert une photo, une vieille photo, qu'on a mis d'ailleurs en couverture de Mademoiselle Marseille, remontée, parce que ce n'est pas la vraie photo. Et sur la vraie photo, il y a d'autres musiciens que ceux qu'on voit. Il y a des mecs qui jouent de l'accordéon. On avait aussi envie de... quand on a vu ce cadre, donc c'est une espèce de... On va dire ça se passe dans un boui-boui, quoi, un espèce de resto clandestin un peu, quoi. Et on voit des noirs et des blancs qui jouent ensemble de la musique. Et nous, évidemment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils jouent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer? Donc aussi, ça nous a titillé pour nous dire, mais on va essayer d'inventer le répertoire que ces types-là sont en train de jouer.
Ouais, c'est ça, comme de la même façon quand tu lis un bouquin et il y a des images qui t'apparaissent. Hein, chacun qui va lire le même bouquin va avoir des images différentes. Donc vu que c'était quand même un bouquin où on parle de musique, on s'est dit, c'est vrai... si on était à leur place, qu'est-ce qu'on aimerait entendre, qu'est-ce qui vient à nos oreilles, quoi, quand on lit ce bouquin, quoi. Et le projet, il est parti de là, en effet. C'est, d'ailleurs, notamment autour du banjo, qui est quand même un instrument phare dans notre musique. Et, c'est pas des images qu'on avait, mais c'est ce qu'on entendait en lisant, c'est marrant à dire, mais ce qu'on entendait en lisant le bouquin, ça a quand même dicté notre ligne de conduite artistique pour ce projet-là.
Parce que après, je pense que comme c'est encore une fois, c'est d'un seul coup, c'est plus un regard c'est plus un regard français au sens de la pensée française, voilà, sur Marseille. Ce qui fait donc que tout ce qu'on a nous de souterrain, il est révélé par ce livre. On pourrait faire 50 sujets sur Marseille à partir de Banjo. Et on trouvait les rapports entre la musique et les voyous. Voilà, c'est un truc super, personne n'en parle. Il y a un truc à Marseille là, qui est comparable à ce qui s'est passé à Chicago. Les rapports entre... voilà, comment les gens du peuple, ils prennent tous ces types qui arrivent de l'extérieur et tout. Il y a des millions de choses qui n'ont pas été... Parce que la littérature française, elle ne s'est pas intéressée à ça. Elle ne s'est pas intéressée à ce truc-là. Donc effectivement, ce livre... c'est pour ça qu'on peut en parler pendant des plombes, quoi. Ça pourrait inspirer des musiciens, pas simplement des
d'ailleurs,
artistes.
D'ailleurs, ça l'a fait, ça a inspiré quand tu écoutes Scotto et que tu lis Banjo, que tu écoutes en tout cas ce qui se faisait à l'époque de Banjo, le rapport il est de suite, il est immédiat, quoi. Tu écoutes Scotto et tu écoutes
la
Jamaïque, tu écoutes. Voilà.
Ça casse le truc, c'est-à-dire que quand les Français ils pensent à Scotto, ils pensent à l'exotisme marseillais de Scotto. À aucun moment ils cherchent dans Scotto qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il y a d'universel dans ce truc? Effectivement, une fois que tu as du banjo, tu réécoutes Scotto, tu fais « Putain, mais il a tout pompé. Il a tout pompé. C'est que du jazz, c'est que des musiques créoles, c'est que des... » Donc c'est un truc qu'on nous présente constamment comme quelque chose d'ultra-local, presque la caricature du local pour les Parisiens. Alors qu'en fait, le mec, au départ, c'est
super universel.
C'est super universel. C'est un truc qui ressemble à Hayam, qui ressemble, qui est dans le conceptuellement, qui est foutu pareil, quoi.
Mais voilà. Il me semble que c'est un peu ce que j'avais envie de vous dire. C'est ce que disait, je crois que c'est Deleuze qui disait ça pour Kafka. Il disait écrire dans, être étranger, être comme un étranger dans sa propre langue. Je crois que ça dit aussi beaucoup de ça, ce que vous dites et comme vous le chantez, et ce que dit McKay aussi à sa façon dans le roman. Et du coup, ce que je vous proposais de faire, c'est qu'on écoute un premier extrait sur cette idée qu'effectivement, ce que vous chantez et ce qu'écrit McKay nous concerne et nous concerne de manière, je dirais, universelle ou générale. Et pour ce premier extrait, j'avais choisi d'écouter « Pour de bon, ils nous le font ».
Ah oui.
Pour de bon, pour de bon, on va le faire. Pour de bon, pour de bon, pour de bon, nous le ferons.
Oh, pour de bon, pour de bon, pour de bon, on va le faire.
Pour de bon, pour de bon, pour de bon, nous le ferons.
Est-ce qu'on t'avait qu'à m'avoir de calçou nouvelle en faraille? Une en poulie d'envolade, en bueno, peut foutre le ouai. Est-ce pas une en galéjade? Approchez-vous si vous plaît.
Pour de bon, ils nous le font.
Approchez-vous si vous plaît. Par la lettre à qu'est-ce gens que nous sommes jugés les ailes. C'est le son d'une défaite. Et nous fous de ces parailles. Nous sera tout dégénéré.
Pour de bon, ils nous le font.
Nous sera tout dégénéré. Des capous et des feignants. Et les sous les bois régés. Si elle y marie, c'est ce coup-là. Sous la compta, sous la gêne. Et yo, comme dit les médias.
Pour de bon, ils nous le font.
Et yo, comme dit les médias. Ok, mandoune, les fabricants. D'une des paris, des tyrans. Montez des dernières fabriques. Enfin, Suzamaï, les enfants. Est-ce la ley économique?
Pour de bon, ils nous le font.
Est-ce la ley économique? Tout est nous l'a expliqué. Tant est fait à corps et tricot. Peglé qui ne comprennent pas. Et l'Europe et l'Amérique. Et chantier de la ciudad.
Pour de bon, ils nous le font.
Les chantiers de la Souta, cette phase est des pétroliers. Alors que tout est sbarra, les mines en fin des fourriers. Ça boum pas manque tifa, une batteur met des papiers.
Pour de bon, ils nous le font.
Une batteur met des papiers, et des vélos de calto. Accord, vous fallait messier, pour embarquer les pébous. Et tout est les courariers, en terre de l'horizon.
Les grues, alors hein, j'aimerais jamais qu'il les lave. Même si ça travaille pas, je trouve que c'est comme si on levait Notre-Dame de la Garde à Marseille. Notre-Dame de la Garde à Marseille. Notre-Dame de la Garde à Marseille.
Donc, on parlait de. Peut-être qu'on va rebondir sur ça. On parlait de ce que vous avez ramené d'universel ou de généralisé ou généralisable dans du roman de McKay. Pour parler maintenant de plus de l'aspect musical de votre travail, qu'est-ce que vous ramenez justement d'universel du blues? Parce que finalement, le blues, effectivement, c'est peut-être comme Marseille, on le ramène toujours à sa particularité, toujours à du local. Et vous, j'ai l'impression que vous avez réussi à en tirer quelque chose de plus universel.
Enfin, blues, bon, par exemple, on vient d'écouter un morceau, par exemple, qui est un morceau qui est totalement dans la tradition nordestine, brésilienne. Sur la forme des repentistes. Et moi, par exemple, à chaque fois que j'écoute des repentistes, je pense à des chanteurs de blues. Pour moi, c'est donc je sais pas si c'est le blues en tant que faut définir la question. Si c'est le blues du delta, on va dire le blues du sud de l'Amérique du Nord, on en tire plein de choses indirectement déjà, puisque toutes les musiques, ne serait-ce que le reggae, le rock, enfin, tout ce qu'on a écouté depuis qu'on est petit, y a du blues dedans.
Alors moi, l'hypothèse que je me faisais, c'est que peut-être que vous rameniez du blues, c'est peut-être ça ce dont on peut parler, c'est-à-dire plus une posture, je dirais, qui quelque part ramènerait, par exemple, mettrait sur le même plan le chansonnier, on va le dire comme ça, et le bluesman, mais au même titre que ça pourrait être un MC ou un troubadour.
Oui, Je pense que c'est ce qui divise la musique. C'est pas des trucs esthétiques. Ce qui divise la musique, c'est la pratique, la posture des gens. Tu as tout à fait raison. Et c'est vrai qu'il y a, une identité de posture entre le type qui improvise de la bourrée, le type qui chante du blues, assez souvent improvisé d'ailleurs, le DJ de hip-hop. Donc entre tous ces trucs qui sont à la fois des trucs traditionnels, c'est-à-dire des choses qui s'inscrivent dans toutes ces musiques là, qui ont une espèce de c'est des genres quoi, hein, qui s'inscrivent dans un genre de continuité, c'est-à-dire il n'y a pas une invention musicale importante continuelle, et puis à la fois toutes ces musiques ont une part très importante à l'improvisation, à la à l'illustration du moment. Donc elles sont toutes vachement proches. Et je pense que si on, nous ici, on est très sensible à ça. Si nous ici, quand on entend un chanteur de blues, si ici quand tu entends, je sais pas, Robert Johnson, sans comprendre ses paroles, tu sais de suite de quoi il retourne. C'est parce que tu en as besoin. C'est-à-dire que parce que ici, à un moment donné, on nous a couper le blues en quelque sorte.
Ouais, c'est
et
ça.
On a continuellement besoin de ce truc.
Je pense que c'est vraiment un problème franco-français, à savoir, on s'entête à mettre des étiquettes sur les styles musicaux, notamment, voilà, pour parler de musique. Le blues, quand on dit à un français, enfin en tout cas ici chez nous, on nous dit le blues, on pense de suite au blues, voilà, les mecs dans les champs de coton qui sont en train de jouer de la guitare. Enfin, c'est des clichés. Maintenant, si on s'en réfère à ce qu'ils font réellement, on se rend compte qu'est-ce qu'ils font. Ils chantent des chansons sur leurs femmes, sur leurs conditions de travail, sur l'alcool. Si on s'en réfère aux musiques des troubadours ou même des musiques pas aussi vieilles, mais au début du siècle dans nos campagnes dans le sud-ouest, tu écoutes les mecs, ils parlent de quoi? Ils parlent de leur nana, de l'alcool et de leurs conditions de travail en train de couper, de ramasser du raisin. Enfin, et c'est exactement la posture, c'est exactement la même. Et ce qu'ils racontent finalement, c'est exactement la même chose remis dans leur contexte, quoi. Mais donc après, on peut l'appeler blues ou pas blues, ou musique traditionnelle, ou folklore, ou ce qu'on veut, mais en tout cas, sur le fond, c'est exactement la même chose, quoi.
Moi, je crois qu'en plus, il y a un côté de la possession. Je pense que c'est des musiques qui ont un rapport avec la possession, c'est-à-dire que c'est des musiques, quand tu les fais, tu es possédé par ce truc-là. Je pense que c'est aussi... ce truc-là, on le retrouve aussi partout. Tu retrouves cette espèce de possession dans le type qui improvise la bourrée, même dans le type qui danse la bourrée, il y a cette possession. Et d'ailleurs, même ici, ils sentent bien, avant, ils interdisaient la danse, hein, parce que c'était le truc du diable. Donc, ils savent bien que c'est la possession, qu'il y a cette idée et je pense que c'est important, ça. C'est-à-dire que... Parce que ça veut dire que quand le type, il chante, c'est... Le sens, il n'est pas contenu que strictement dans les paroles que tu comprends. Il est beaucoup plus contenu dans la globalité de ce que ton oreille perçoit.
Et d'incarner cette posture, tu parles de possession, de le faire aujourd'hui et de le faire de la manière dont vous le faites, c'est-à-dire en tant que, j'ai envie de dire, chansonnier, mais au vrai sens du terme, oui. ça dit quoi de le faire dans la société d'aujourd'hui et peut-être dans la ville dans laquelle on est?
Ça, je pense que c'est humain, donc c'est au contraire. Ici, il y a le manque. Pourquoi on va rechercher ça loin? Parce qu'on a... On a le manque d'un truc qui serait tout près de nous, qui on n'aurait pas besoin d'aller chercher. Si on avait cette forme, c'est-à-dire si on nous avait permis de continuer à garder nos formes d'expression, on n'aurait pas besoin d'aller les chercher. Mais le fait qu'on nous ait pas permis de les garder, c'est pour ça que les jeunes, ils écoutent de la musique qui vient d'ailleurs. C'est parce que parce qu'il y a plus de musique qui vient de chez eux, donc ils écoutent la musique d'ailleurs. Donc t'en as toujours besoin. C'est pas parce que là il y a des buildings ou des machins que ça continue pas. C'est pas. Alors après effectivement c'est souvent le départ est souvent rural de ces musiques. Mais il y a aussi une tradition urbaine qui est aussi ancienne, je pense, qui est pareil, quoi.
D'accord.
Je t'ai coupé la.
Non, juste je voulais dire que c'est le travail aussi qu'ont fait les Fabulous Troubadours, à savoir de ramener cette forme brésilienne à leur Occitanie et de se rendre compte que finalement tous les repentistes, les coquistes, ces troubadours nord-estins, leur influence, elle vient d'Europe, quoi, elle vient de chez nous. Et c'est eux qui sont venus chercher ça à une époque chez nous et qui l'ont ramené chez eux. Et aujourd'hui, c'est un peu de l'import-export, quoi, on dirait. C'est vraiment du commerce. Il y a une espèce d'échange comme ça entre le nord-est et l'Occitanie qui fait que finalement, on va rechercher ce qu'on avait nous chez nous, quoi.
Et ça, justement, d'établir des correspondances, comme ça, je dirais, entre...
Parce que c'est la vraie histoire, en quelque sorte. En fait, c'est la vraie histoire. La fausse histoire, c'est l'histoire qu'on t'apprend. Ça, c'est la fausse histoire. Paris, machette, c'est la fausse histoire. La vraie histoire, c'est pas comme ça, l'histoire. La vraie histoire, ça veut dire comment les recettes qu'on a trouvées pour vivre ensemble, comment on s'est démerdé à ce moment-là, comment de ça on est passé à ça. Cette vraie histoire, elle est pas du tout ce qu'on nous raconte, quoi. Donc il n'y a pas des coupures et des Enfin, je veux dire, nous, on voit pas d'un côté l'Afrique, d'un côté, ça fait partie de leur histoire. C'est pas la vraie histoire, ça.
Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment sur une idée de musique, je dirais, ou de creuser musical l'art qui articule plus les choses qu'elles vont les réduire à leur identité, à leur localité.
D'artisanat, de fonction. Ça marche. On l'utilise.
Ok, bon, on va peut-être s'arrêter là. Je voulais qu'on écoute un autre morceau, peut-être qui illustrera ce qu'on vient de dire, qui est Boulega Banjo.
Allez, banjo, amène-toi là-bas. On va se faire caguer. C'est pour des vignes, c'est pour des bambous, c'est pour des filles en pou. Sana dormi e sai senso in questi due pei. In cole mai l'usule e sana dormi e si hanno incato una vivenda la bucciaria. E vuoi? Ani, ani un bulego banjo bulega. Che farà un refren che se la pad in la lingua dei general, dei general, dei general, dei general, dei general. Maxia, Maxia. Marco Poplena Maxia, Maxia Quelli cama Marcudena Vai, vuoi Maxia, Maxia E me è un fa che spara da moto Oh no E un carino giornato che non sa un pacco Un tuo, la lei papi Vai, vai Un giornato che viene scappata che stupettante con tuule dei papieri ah vuoi ane 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 burega banjo burega burega vuoi che farà il refren che sarà pad in la lingua da che lei marco mao Maxia Maxia al marco poplena Maxia Maxia Quelli cama ma cudeno E canzaio tutta cova Maxia, Maxia E me è un faghe spalla da moto Are, 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 bulega, mangio, bulega Me offunde la poccia in piscio coca che uè Incore mai la nuova stubala E me din la poccia de che se fa un po' di me vedai Ane, ane burega, banjo burega, burega, burega tutta tua Che farà il refren che sarà pad in la lingua du capitan Du capitan, du capitan, du capitan, du capitan Maxia, Maxia Coupa plena Maxia, Maxia Ai, vuoi Vuoi cama ma cudena Ai, papà, vai Maxia, Maxia Ai, ma coupa plena Maxia, Maxia Vuoi cama ma cudena Ai, ma bulega, vai Maxia, Maxia Oh no 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 E me è un fuoco e spalla da moto Oh vai pure che faccio male Cazzaio, cazzaio, cazzaio
Marseille. Ah ouais.